Troisième partie. Vienne la moisson. Chapitre 1. Sous la lune chasseresse. 1. Le parfait amour, comme toute drogue dure qui rend accro, est chiant. Une fois parcourus les chapitres de la rencontre et de la découverte, les baisers s'éventent très vite et les caresses deviennent une corvée, sauf bien sûr pour ceux qui échangent baisers et caresses alors que les sons et les couleurs du monde qui les entoure semblent s'amplifier et s'intensifier. Comme toute drogue dure, le premier et parfait amour n'intéresse vraiment que ceux qui en sont prisonniers. Et comme toute drogue dure qui rend accro, le premier et parfait amour est dangereux. 2. Certains appelaient chasseresse la dernière lune d'été, d'autres la première lune d'automne. Dans les deux cas, elle marquait un changement dans la vie de la baronnie. Les pêcheurs sortaient sur la baie avec un pull sous leur ciré, car les vents d'automne viraient de plus en plus nettement, soufflant d'est en ouest de plus en plus âprement. Dans les grands vergers de la baronnie au nord d'Ambry et dans les plus petits, propriétés de John Croydon, Henry Vertner, Jack White et de la riche et maussade Coraline Thorin, les cueilleurs faisaient leur apparition portant leurs curieuses échelles en piteux état. Des charrettes tirées par des chevaux pleines de tonneaux vides les suivaient. Quand le vent venait des cidreries, et en particulier de la grande cidrerie de la baronnie à 2 kilomètres au nord de Front de Mer, l'air était plein de la douceur aigrelette des blêmes pressés, panier après panier. Loin du rivage de la mer limpide, les journées demeuraient tièdes, tandis que la chasseresse croissait. Les ciels restaient clairs le jour comme la nuit, mais la vraie chaleur estivale avait passé avec la lune du colporteur. On coupait les derniers foins, et du début à la fin, cela ne prenait qu'une semaine de temps. Ils étaient toujours peu abondants, et Ranchero, comme petit propriétaire, les maudissait, se grattant la tête et se demandant pourquoi il se donnait cette peine. Mais, dès ce vieux mois de mars pluvieux et venteux venu, devant leurs greniers et silos qui se videraient rapidement, comme toujours, ils ne se le demanderaient plus. Dans les jardins de la baronnie, les grands jardins des Ranchero, les jardinets des petits propriétaires et les minuscules plates-bandes des citadins, hommes, femmes et enfants, en vieux habits et bottes, coiffés de sombreros et de sombreras, s'activaient. Les jambes de leurs pantalons étaient solidement attachées aux chevilles, car au temps de la chasseresse, serpents et scorpions en hordes innombrables surgissaient du désert, migrant vers l'est. À l'heure où la vieille lune du démon commençait à engraisser, une ribambelle de crotales pondouillait au bar d'attache du repos des voyageurs, comme du magasin général qui lui faisait face. D'autres commerces décoraient de même leurs barres d'attache, mais quand on décernait le prix du plus grand nombre de peaux de serpent le jour de la moisson, c'était toujours soit le saloon, soit le magasin général qui le remportait. Dans les champs et les jardins, des femmes aux cheveux noués dans des fichus, des amulettes de la moisson cachées dans leurs seins, trimbalaient les corbeilles pour la cueillette le long des rangées. On ramassait les dernières tomates, les derniers concombres, les derniers maïs, les dernières puires et mingues. Dans la foulée, alors que les journées se faisaient plus piquantes et que se rapprochaient les tempêtes d'automne, ce serait le tour des courges, âpres raves, citrouilles et pommes de terre. À Mégis, le temps de la moisson était venu, tandis que là-haut, de plus en plus clair dans la nuit étoilée, la chasseresse bandait son arc et regardait à l'orient ses étendues étrangement aqueuses sur lesquelles nul homme ou nulle femme de l'entre-deux-mondes n'avait jamais jeté les yeux. 3. Ceux qui sont entre les griffes d'une drogue dure, héroïne, herbe du diable, parfait amour, se retrouvent souvent à tenter de maintenir un précieux équilibre entre secret et extase le long de la corde raide de leur vie. Conserver son équilibre sur une corde raide est déjà difficile en état de grande sobriété. Agir ainsi en état de délire est quasiment impossible, et totalement impossible à long terme. Roland et Susan nageaient en plein délire, mais avaient du moins le mince avantage de le savoir. Leur secret n'aurait pas été gardé éternellement, seulement jusqu'au jour de la fête de la moisson, au plus long. Les choses pouvaient même se terminer bien avant si les grands chasseurs du cercueil se décidaient à sortir à découvert. Le premier mouvement pourrait être le fait de l'un des autres joueurs, songeait Rolland. Mais peu importe qui bougerait le premier, Jonas et ses hommes seraient là, faisant partie du lot. Un lot susceptible d'être le plus dangereux pour les trois garçons. Rolland et Susan se montraient prudents, aussi prudents que des gens en délire pouvaient l'être. Ils ne se retrouvaient jamais deux fois d'affilée au même endroit et fonçaient droit à leur rendez-vous d'amour sans se dissimuler. À Humbry, si faire du cheval était courant, on remarquait par contre les dissimulateurs. Suzanne ne tenta jamais de couvrir ses sorties à cheval en recourant à une amie, même si plusieurs d'entre elles lui auraient volontiers rendu ce service. Les personnes ayant besoin d'un alibi avaient quelque chose à cacher. Elle sentait pourtant que ses chevauchées mettaient tant de cordes de plus en plus mal à l'aise, en particulier celles en début de soirée. Mais jusqu'à présent, elle avait accepté la raison que Suzanne lui en avait maintes et maintes fois donnée, le besoin d'être seule pour mieux réfléchir à sa promesse et en accepter la responsabilité. Ironie du sort, cette suggestion lui avait été soufflée à l'origine par la sorcière du Curse. Il se retrouvait dans la Soleil, dans nombre de hangars à bateaux à l'abandon et menaçant ruine, au cap nord de la baie, dans une cabane de gardiens de troupeaux au fin fond des terres désolées du Curse, ou encore dans une bicoque de squatteurs cachée dans la mauvaise herbe. À tout prendre, ces lieux étaient dans leur ensemble aussi sordides que ceux où les drogués se réunissent pour se livrer à leurs vices. Mais Rolland et Suzanne ne voyaient ni les murs pourrissants de la bicoque, ni les trous dans le toit de la cabane, ni les filets de pêche moisis aux quatre coins des anciens hangars à bateaux rongés d'humidité. Ils étaient drogués, l'amour les rendait stone, et à leurs yeux, la moindre balafre sur la face du monde était frappée au coin de la beauté. À deux reprises, au tout début de ces semaines de délire, ils utilisèrent la pierre rouge derrière le pavillon pour leur rendez-vous. Puis, une voix profonde s'éleva sous le crâne de Rolland, lui disant qu'il fallait cesser. La pierre aurait parfaitement convenu à des enfants friands de cachotterie, mais son amoureuse et lui n'étaient plus des enfants. Si jamais ils étaient découverts, le bannissement était le châtiment le plus doux qu'ils pouvaient espérer. La pierre rouge était trop exposée, mais quant à mettre des choses par écrit, même des messages au contenu délibérément vague et non signé, c'était horriblement dangereux. Utiliser chimie leur parut plus sûr à tous deux. Derrière son sourire de débile léger existait une surprenante et profonde, eh bien oui, discrétion. Rolland avait mûrement réfléchi avant de s'arrêter à ce substantif. Et c'était le mot juste. Une capacité à rester silencieux qui était plus digne que de la sournoiserie pure et simple. La sournoiserie était hors de portée de chimie, de toute façon. Elle le serait toujours. Un individu qui ne pouvait mentir sans détourner les yeux ne serait jamais considéré comme sournois. Ils utilisèrent chimie une demi-douzaine de fois au cours des 5 semaines où leur passion charnelle les consuma au plus haut degré. 3 fois pour prendre rendez-vous, 2 pour changer de lieu de rendez-vous et 1 pour en annuler un quand Suzanne repéra des cavaliers du Piano Ranch à la poursuite de bêtes égarées près de la bicoque de la mauvaise herbe. Si la voix profonde ne mit jamais Rolland en garde contre chimie ou contre les dangers de la pierre rouge, celle de sa conscience lui parla quand il mentionna le fait à Suzanne. Alors que tous deux, enveloppés d'une couverture de sel, reposaient nus dans les bras l'un de l'autre. Il découvrit que la conscience de cette dernière ne l'avait pas non plus laissé en repos. Il n'était pas juste d'impliquer ce garçon dans leur tracas éventuel. Une fois arrivés à cette conclusion, Rolland et Suzanne organisèrent leur rendez-vous sans intermédiaire. Si elle était dans l'impossibilité d'aller le retrouver, lui dit Suzanne, elle étendrait une casaque rouge à sa fenêtre, comme pour la mettre à sécher. Si c'était lui qui ne pouvait pas, il n'aurait qu'à laisser une pierre blanche au coin nord-est de la cour, à l'opposé en diagonale du relais et céleri hookie, où se trouvait la pompe municipale. En dernier recours, ils utiliseraient la pierre rouge du pavillon, quel que soit le risque, plutôt que de mêler chimie à leurs affaires amoureuses à nouveau. Cuthbert et Alain assistèrent à la chute de Roland dans son assuétude. D'abord avec incrédulité, envie et un amusement gêné, puis avec une sorte d'horreur muette. Envoyés ici, soi-disant pour garantir leur sécurité, ils avaient découvert que s'y tramait une conspiration. Ils étaient venus effectuer un recensement dans une baronnie où apparemment la majeure partie de l'aristocratie avait transféré son allégeance à l'ennemi déclaré de la filiation. Ils s'étaient fait des ennemis personnels de 3 durs à cuire ayant probablement tué de quoi peupler un cimetière de bonne taille. Cependant, ils s'étaient sentis à la hauteur de la situation parce qu'ils étaient venus ici sous la houlette de leur ami, auréolé dans leur esprit d'un statut quasi mythique pour l'avoir emporté sur Corte, avec un faucon pour arme, et être devenu ainsi pistolero à l'âge inouï de 14 ans. Qu'eux-mêmes aient été munis d'armes à feu pour cette mission avait revêtu une grande signification à leur départ de Gilead, et plus qu'aucune, dès qu'ils avaient commencé à saisir l'envergure de ce qui se jouait à Ambryville et dans la baronnie dont elle faisait partie. Dès cette prise de conscience, Roland fut l'arme sur laquelle ils comptèrent. Et maintenant...
« Il est comme un revolver jeté à l'eau !»
s'exclama Cuthbert, un soir que Roland venait de partir retrouver Suzanne à cheval. Au-delà du porche du baraquement, la chasseresse dans son premier quartier montait au ciel. « Les dieux seuls savent s'il pourra tirer à nouveau, même si on le repêche et si on le sèche. »
« Chut, attends !» fit Alain, fixant la balustrade du porche.
Espérant égayer la mauvaise humeur de Cuthbert, tâche des plus aisées en temps ordinaire, Alain lança
« Où est passée la vigie? Partez se coucher avec les poules pour une fois ?»
Ce qui contribua à augmenter l'irritation de Cuthbert. Cela faisait plusieurs jours qu'il n'avait pas jeté les yeux sur le crâne de Corneille. Combien, il n'aurait su le dire exactement, mais il interprétait sa perte comme un mauvais présage.
« Parti, mais pas se coucher !» répliqua-t-il.
Il jeta un regard sinistre en direction de l'ouest où Roland avait disparu, monté sur son étrange et vieux canasson.
« Je l'ai perdu, je suppose,
comme certain individu a perdu esprit, cœur et bon sens. »
« Ça lui passera, » dit Alain,
maladroitement.
« Tu le connais aussi bien que moi, Berthe, on le connaît depuis toujours.
Ça lui passera. »
Tranquillement, sans nulle trace de sa bonne humeur coutumière, Cuthbert répondit « Je n'ai pas l'impression de le connaître en ce moment. » Chacun à sa manière, tous deux avaient tenté de parler à Roland et s'étaient attiré la même réponse, à savoir pas de véritable réponse. Le regard rêveur, distrait et peut-être légèrement troublé de Roland au cours de ces échanges à sens unique n'aurait pas surpris quelqu'un tâchant de raisonner un drogué. Ce regard ne révélait que trop que Roland avait l'esprit préoccupé par Suzanne. La forme de son visage, l'odeur de sa peau, le contact de son corps. Préoccupé était un adjectif faible, tombant un peu à côté, car cela n'avait rien d'une préoccupation et tout d'une obsession.
« Je la déteste un peu pour ce qu'elle a fait, » dit Cuthbert.
Alain décela dans son ton une nuance qu'il n'y avait jamais entendue. Nuance où se mêlaient jalousie, frustration et peur.
Et peut-être plus qu'un peu. Mais il ne faut pas...
Alain essaya de ne pas paraître choqué, mais ne put s'en défendre.
Elle n'est pas responsable. Ah non ? Elle est allée à Sidgo avec lui. Elle a vu ce qu'il a vu. Les dieux savent ce qu'il lui a dit d'autre, une fois qu'ils ont eu fait la bête à deux dos. Et elle est tout au monde sauf crétine. Rien que la façon dont elle a conduit l'affaire de son côté le prouve.
Berthe faisait référence, devina Alain, à sa petite astuce de la corvette.
Elle doit savoir qu'elle est devenue elle-même une partie du problème. Elle doit bien savoir, ça.
À présent, son amertume se faisait jour d'une façon effrayante. Il est jaloux d'elle, car il l'accuse de lui avoir volé son meilleur ami, songea Alain. Mais ça ne s'arrête pas là. Il est aussi jaloux de son meilleur ami, car il a obtenu les faveurs de la plus belle fille que nous ayons jamais vue. Alain se pencha et prit Cuthbert par l'épaule. Quand ce dernier daigna se détourner de sa morose contemplation de la cour pour regarder son ami, la sévérité qui imprégnait le visage d'Alain le frappa. « C'est le cas, » dit Alain. Cuthbert ricana à moitié. « Si j'avais dîné chaud chaque fois que quelqu'un a attribué au cas le moindre larcin ou béguin ou autre niaiserie de ce calibre, » Alain accentua sa poigne jusqu'à la douleur. Cuthbert aurait pu s'en délivrer, mais il n'en fit rien. Il observa attentivement Alain. Le plaisantin avait plié bagage, temporairement du moins. On peut difficilement se payer le luxe de blâmer qui que ce soit tous les deux, dit Alain. Tu ne vois pas ça? Et si jamais c'est le cas qui les a emportés, blâmer est inutile. On ne peut porter aucun blâme. Il faut voir plus haut. On a besoin de lui. Et il se peut qu'on ait besoin d'elle également. Cuthbert fixa Alain au fond des yeux pendant une éternité, sembla-t-il. Alain vit qu'en Bert, la colère le disputait au bon sens. Enfin, et seulement peut-être pour l'instant présent, son bon sens l'emporta. « D'accord, parfait. C'est le cas. » Le bouc émissaire favori de tout un chacun. Le monde de l'invisible est fait pour ça, après tout, n'est-ce pas? Pour qu'aucun de nos agissements stupides ne nous soit reproché. Tu veux bien me lâcher maintenant, Al, avant que tu me brises l'épaule? Alain obtempéra et se rassit dans son rocking chair avec soulagement. Si on savait seulement quoi faire avec l'aplomb, si on commence pas bientôt à compter par là-bas... « Il m'est venu une idée à ce propos, » dit Cuthbert. « Faut que j'y cogite encore un peu. Je suis sûr que Roland pourrait nous aider. Si l'un de nous arrive à capter son attention, quelques minutes, évidemment. » Là-dessus, ils restèrent assis un moment sans parler, le regard tourné vers la cour d'entrée. À l'intérieur du baraquement, les pigeons, autres pommes de discorde entre Roland et Bert ces jours, roucoulaient à qui mieux mieux. Alain se roula une cigarette, ce fut laborieux, et si le produit fini était plutôt cocasse, le tabac ne s'éparpilla pas quand il l'alluma. « Ton père te fouetterait jusqu'au sang s'il te voyait avec ça dans les mains, » observa Cuthbert avec une certaine admiration. « Quand la chasseresse reviendrait l'année prochaine, tous trois seraient des fumeurs invétérés, de jeunes hommes à la peau tannée qui auraient presque entièrement perdu leur regard d'enfant. » Alain opina. Le tabac brun et fort du croissant extérieur lui faisait tourner la tête et lui râpait la gorge, mais une cigarette avait le don de lui apaiser les nerfs, et pour l'heure, ses nerfs réclamaient ce genre de calmant. Il ignorait si Bert était comme lui, mais ces jours, il flairait le sang dans le vent. Il était possible que le leur coulât. Alain n'était pas à proprement parler terrorisé, pas encore du moins. Mais très, très inquiet. 4. Bien qu'on les ait dressés comme des faucons au maniement des armes à feu depuis leur plus tendre enfance, Cuthbert et Alain trimbalaient une conviction erronée, courante chez de nombreux garçons de leur âge. À savoir que leurs aînés les surpassaient de 100 coudées, du moins quand il s'agissait de tirer des plans et de faire preuve de finesse d'esprit. Ils étaient pour de bon persuadés que les adultes savaient ce qu'ils faisaient. Si Roland, lui, malgré son mal d'amour, était plus au fait, ses amis avaient oublié que dans une partie de Castells, les deux camps avaient les yeux bandés. Ils auraient été surpris d'apprendre que les trois jeunes gens du monde de l'intérieur provoquaient une nervosité extrême chez au moins deux des grands chasseurs du cercueil, extrêmement lassés du jeu attentiste auquel se livraient les deux camps. Un matin de bonne heure, alors que la chasseresse s'approchait de sa demie, Reynolds et De Pape descendirent ensemble du premier étage du repos des voyageurs. La salle principale était plongée dans un silence uniquement troublé par des ronflements et autres sifflements gras. Dans le bar le plus animé d'Ambry, la fête était terminée jusqu'au soir suivant. Jonas, installé en compagnie d'un hôte muet à la table de Coraline, jouait à la patience des chanceliers. Il se trouvait à gauche des portes battantes du saloon. Il portait son cache-poussière et la respiration se condensait légèrement chaque fois qu'il se penchait sur ses cartes. Il ne faisait pas encore assez froid pour qu'il gèle, mais les gelées étaient pour bientôt. L'air glacial ne permettait d'entretenir aucun doute là-dessus. Le souffle de son hôte fumait aussi. L'ossature squelettique de Kimba Rimmer était quasiment enfouie sous un poncho gris qu'éclairait d'indistinctes rayures oranges. Tous deux allaient parler affaires quand Roy et Clay, Guignon et Niafrol, songe à Rimmer, répliquèrent, ayant apparemment fini de labourer et de biner dans les logettes du premier pour cette nuit. « Edward, » fit Reynolds, puis « Ça et Rimmer ?» Rimmer le salua de la tête, son regard glissant avec un léger dégoût de Reynolds à De Pape.
« Que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes, messire. »
Le monde avait changé, certes, songea-t-il. Retrouver des goujats de si basse extraction tels que ces deux-là dans une position aussi éminente en fournissait la preuve. Jonas lui-même se hissait à peine au-dessus. « On pourrait te dire un mot, Edred ?» demanda Clay Reynolds. « Moi et Roy, on a eu une petite discussion. »«
Mauvaise idée !»
laissa tomber Jonas de sa voix chevrotante. Rimmer ne serait aucunement surpris de découvrir à la fin de sa vie que l'ange de la mort avait une voix semblable.
« Parler peut faire penser, et penser, c'est dangereux pour des gens comme vous, comme ce curé le nez avec la pointe d'une balle. »
De Pape partit de son satané rire, comme s'il n'avait pas compris que la vanne le visait. « Écoute, Jonas, » commença Reynolds, avant de regarder Rimmer avec incertitude.
« Vous pouvez parler devant ça, Rimmer !»
fit Jonas, alignant une nouvelle rangée de cartes.
« Après tout, c'est notre principal patron. Je joue à la patience des chanceliers en son honneur. Si fait !»
Reynolds ne cacha pas sa surprise. « Je pensais, c'est-à-dire je croyais que c'était le maire Thorin. »
« Ah, Thorin ne veut rien savoir des détails de notre accord avec l'homme de bien, »
fit Rimmer.
« Une part des profits, tout ce qu'il réclame, messire Reynolds. Le principal souci du maire pour l'heure, c'est que le jour de la fête de la moisson se déroule sans heurts et que ses dispositions avec la jeune dame puissent aboutir sans heurts à sa consommation. »
Si fait, voilà qui est fort diplomatiquement tourné, dit Jonas,
adoptant pour la circonstance un fort accent de Mégis.
Mais, puisque Roy me paraît un peu perplexe, je vais traduire. Le maire Thorin, ses jours passent le plus clair de son temps au cacoins à s'astiquer la zigonette en rêvant que son poing est la boîte à ouvrage de Susan Delgado. Je suis prêt à parier que lorsque l'huître sera enfin ouverte et la perle à sa portée, il la pêchera même pas. Son cœur va exploser sous l'excitation et il tombera raide mort sur elle. Si fait. Ouais.
Nouveau braiement de rire chez De Pape qui flanqua un coup de coude à Reynolds.
Hein, Clay, qui s'y est mis ? On dirait qu'il est du coin. »
Reynolds grimaça un sourire, mais ses yeux restèrent soucieux. Rimmer eut un rictus aussi mince qu'une couche de glace en novembre, et désigna le 7 qui venait juste de surgir du paquet.
« Rouge sur noir, mon cher Jonas. Je suis votre cher rien de ton !»
le corrigea Jonas, posant le 7 de carreau sur le 8 d'ombre.
« Vous feriez mieux de vous en souvenir. »
Puis se tournant vers Reynolds et de Pape.
« Bon, vous voulez quoi, les gars? Moi et Rimmer, on allait tenir une petite palabre. »«
Peut-être qu'on pourrait mettre toutes nos têtes ensemble ?»
dit Reynolds en posant la main sur le dossier d'une chaise.
« Histoire de voir si on est du même avis. »
« Je crois que non !»
fit Jonas, rassemblant ses cartes d'un revers de main.
Il avait l'air agacé. Aussi Claire Reynolds retira-t-il prestement sa main du dossier.
« Dites ce que vous avez à dire, qu'on en finisse, il se fait tard !»
On se disait qu'il était temps qu'on se rende là-bas, au bar K,
fit de Pape. Histoire de jeter un coup d'œil et de voir si on trouve quelque chose pour étayer les dires du vieux schnock de Rizzi.
Et voir aussi ce qu'ils ont d'autre là-bas, enchérit Reynolds.
Ça se rapproche, Eldred. Et on peut pas se permettre de prendre des risques.
Ils pourraient avoir, si fait, des flingues, des lampes électriques, des faits dans des bouteilles, qui sait? « Je vais y réfléchir, Clay. Mais je te dis que je vais y réfléchir. En attendant, tous les deux, montez et retrouvez vos fées à vous. »
Reynolds et de Pape le dévisagèrent, puis, après avoir échangé un coup d'œil, s'éloignèrent de la table. Rimmer les observait, un très léger sourire aux lèvres. Au pied de l'escalier, Reynolds se retourna. Jonas s'arrêta de mélanger les cartes et leva les yeux vers lui, haussant ses sourcils touffus.
« On les a sous-estimés une fois déjà. Ils nous ont tournés en bourrique devant tout le monde. Le pas que ça se reproduise, c'est tout. »«
Ça te fait encore mal au cul, hein ? Eh ben, à moi aussi, figure-toi. Et je te le répète, ils nous le paieront. » J'ai l'ardoise toute prête et au moment venu, je la leur présenterai avec les intérêts dûment calculés. En attendant, je vais pas les laisser me foutre la frousse pour m'obliger à faire le premier pas. Le temps est de notre côté, pas de leur. Tu comprends ça?
Ouais.
Tu veux bien essayer de t'en souvenir ?
Ouais,
répéta Reynolds, qui eut l'air satisfait.
Et toi, Roy, j'ai ta confiance.
Si fait, Eldred, la plus totale.
Jonas l'avait félicité pour le boulot qu'il avait fait à Rizzi. Et de Pape s'était vautré dans ses louanges comme un matin en chaleur dans l'odeur d'une chienne.
« Alors, montez tous les deux et laissez-moi palabrer avec le patron pour qu'on en finisse. Je suis trop vieux pour veiller si tard. »
Après leur départ, Jonas aligna une nouvelle rangée de cartes, puis regarda la pièce qui l'entourait. Il y avait à tout casser une dizaine de Pékins, y compris Cheb le pianiste et Barky le videur qui cuvaient leur vin. Aucun n'était assez prêt pour surprendre le conciliabule des deux hommes près de la porte, comme si l'un des poivrons ronflant comme un perdu simulait pour une raison X le sommeil. Jonas posa une reine rouge sur un cavalier noir, puis releva les yeux vers Rimmer.
« Dites ce que vous avez à dire. »«
Pour de Lascar l'ont dit à ma place, en fait. Ça est de Pape. » Ne sera jamais embarrassé d'un surcroît de cervelle, mais Reynolds est joliment futé pour un flingueur, non ?
Clay assure qu'il est bien luné et qu'il s'est donné un coup de rasoir, acquiesça Jonas.
Est-ce à dire que vous vous êtes déplacé de front de mer pour me suggérer d'observer de plus près ces trois enfants sans ?
Rimmer haussa les épaules.
Ça s'impose peut-être, et dans ce cas, c'est à moi de m'en charger, vrai. Mais qu'y a-t-il à découvrir ?
Ça reste à voir, fit Rimmer, qui ajouta, tapotant l'une des cartes de Jonas. Chancelier.
Si fait, presque aussi moche que celui assis à ma table.
Jonas posa le chancelier, cette épaule, au-dessus du jeu. Le tirage suivant lui donna Luc, qu'il posa près de Paul. Ce qui laissait Mathieu et Pierre encore dans la nature. Jonas fixa Rimmer d'un air entendu.
Vous cachez mieux votre jeu que mes petits camarades, mais vous êtes aussi nerveux qu'eux, au fond. Vous voulez savoir ce qu'il y a dans ce baraquement. Je vais vous le dire. Des bottes de rechange, des portraits de leur chère maman, des chaussettes qui puent au plus haut des cieux, les draps à mi-donner de sperme de garçons à qui on a appris que courir après les moutons, c'était bon pour les classes inférieures. Et enfin, des flingues cachées quelque part sous les lattes du plancher, plus que probable.
Vous pensez vraiment qu'ils sont armés ?
Si fait. Roy en a obtenu l'assurance et comment ? Ils sont de Gilead et descendent de l'aîné, ou d'une lignée qui se raconte qu'elle en descend. Et probable qu'ils sont des apprentis qu'on a expédiés ici avec des flingues qu'ils n'ont pas encore méritées. Je me pose des questions sur l'échalard qui se trimballe avec son air, rien à foutre. Il se pourrait bien qu'il soit déjà un pistolero, je suppose, mais est-ce vraisemblable? Je crois pas. Et même si c'est le cas, je pourrais me le faire à la loyale. Je le sais, et lui aussi le sait.
Alors, pourquoi les a-t-on envoyés ici?
En tout cas, pas parce que ceux des baronnies intérieures vous soupçonnent de trahison, Rimmer. Soyez tranquille là-dessus.
La tête de Rimmer jaillit de son poncho quand il se redressa sur son siège et son visage se durcit.
Comment osez-vous m'appeler traître? D'où vous vient cette audace?
Eldred Jonas gratifia le ministre de l'inventaire d'Ambry d'un sourire fort déplaisant. Il fit ressembler le vieillard à cheveux blancs à un carcajou.
J'ai toujours appelé les choses par leur nom toute ma vie, et ce n'est pas maintenant que je vais changer. Tout ce qui doit vous importer, c'est que je n'ai jamais doublé qui m'emploie.
Si je ne croyais point à la cause de...
Au diable, ce que vous croyez ou pas! Il est tard, et je veux aller rejoindre mon lit, les habitants de Nouvelle-Canaan et de Gilead n'ont même pas une vague idée de ce qui se passe ou ne se passe pas ici, sur le croissant. Ils sont pas nombreux à être venus faire un tour dans le coin, je gagerais. Ils sont bien trop occupés à essayer d'empêcher que tout s'écroule autour d'eux pour voyager beaucoup ces jours. Non, tout ce qu'ils savent vient des livres d'images qu'on leur a lus quand ils étaient petits, des cow-boys qui galopent joyeusement après le bétail, des pêcheurs qui remontent joyeusement des poissons d'une taille monstrueuse dans leurs bateaux, des autochtones qui se pressent au baptême des écuries et boivent de grandes chopes de graffe au pavillon du cœur vert. Au nom de l'homme appelé Jésus Rimmer, venez pas me mettre la pression. Je veille au grain tous les jours que les dieux font.
Donc, pour eux, Mégis est un havre de paix et de sécurité.
Si fait. Plein de splendeur bucolique, c'est comme ça. Il n'y a pas à t'entiller. Ils savent aussi que leur mode de vie, noblesse, chevalerie, culte des ancêtres, et tout, est la proie des flammes. L'affrontement final peut bien avoir lieu à 200 roues au nord-ouest de leurs confins, quand Farson lancera ses chariots de feu et ses robots pour anéantir leur armée. Les troubles gagneront rapidement le sud. Il y a des habitants des baronnies intérieures qui ont senti venir la chose depuis une bonne vingtaine d'années. Ils n'ont pas envoyé ces gamins ici pour découvrir vos petits secrets. Rimmer, des gens comme eux n'envoient pas leurs enfants sont à dessein en première ligne. Ils les ont expédiés ici pour les mettre à l'abri. C'est tout. Ça ne les rend pas stupides ou aveugles pour autant. Mais au nom des dieux, sachons raison garder, ce ne sont que des motards.
Que découvririez-vous d'autre si jamais vous alliez là-bas?
Peut-être un système de messagerie. Un héliographe, probablement. Et puis, au-delà de Verrou Canyon, un berger ou un petit propriétaire susceptible d'être acheté, quelqu'un qu'ils ont entraîné à recevoir ou à transmettre par miroir les messages, ou bien encore qui les porte à pied. Mais d'ici peu, il sera trop tard pour que ces messages aient un effet bénéfique, n'est-ce pas?
Peut-être. Mais il n'est point encore trop tard. Et vous avez raison, moutard ou pas, il me cause du tracas.
Sans raison, je vous le répète. Bientôt, je serai riche et votre fortune sera faite. Vous pourrez même être maire, si ça vous chante. Qui pourrait vous en empêcher? Thorin? Vous voulez rire? Coraline? Elle vous aiderait à le pendre, j'intuite. Ou peut-être vous plairait-il mieux de devenir baron, si jamais de tels titres étaient remis en vigueur?
Jonas, voyant s'allumer une lueur dans l'œil de Rimmer, éclata de rire. Il tira Mathieu du paquet et le posa près des autres chanceliers.
« Ouais, je vois ce à quoi votre cœur prétend. Les diamants, c'est bien, l'or, deux fois mieux, mais rien ne vaut d'avoir les autres qui vous saluent bien bas et rampent à vos pieds, hein ?»«
Ils auraient dû s'attaquer au secteur cow-boy à présent. »
Les mains de Jonas s'immobilisèrent au-dessus de sa réussite. La même idée lui avait traversé l'esprit plutôt deux fois qu'une, en particulier depuis les 15 derniers jours.
« À votre avis, Combien de temps cela prend-il pour compter nos filets et nos bateaux et établir un barème des produits de la pêche ?
Demanda Rimmer.
Il devrait déjà être sur l'aplomb à compter vaches et chevaux, à visiter écuries et étables, à étudier les barèmes des poulains. Il devrait avoir commencé depuis 2 semaines, en fait, à moins qu'il ne sache déjà ce qu'ils découvriront.
Jonas comprit ce que Rimmer sous-entendait par là, sans pouvoir le croire, sans vouloir le croire. Pas un tel degré de dissimulation chez des gamins qui ne se rasaient qu'une fois par semaine.
« Non, » dit-il, « c'est juste votre culpabilité qui vous souffle ça à l'oreille. Ils sont simplement si déterminés à faire bien les choses qu'il lambine pire que le vieux bonshomme à vue basse. Nous ne les verrons que trop tôt sur l'aplomb à compter et tous leurs sons.
Et si nous ne les voyons point ?
Bonne question. On trouverait un moyen ou un autre de s'en débarrasser, supposait Jonas. En leur tendant une embuscade, pourquoi pas 3 coups de feu incognito et salut les enfonçons. Bien sûr, ça serait mal vu. On les aimait bien en ville, ces garçons. Mais Rimmer pourrait veiller au grain jusqu'au jour de fête, et après la moisson, ça n'aurait plus d'importance. Encore que...
« Je vais aller jeter un coup d'œil au barca, » dit enfin Jonas. « J'irai seul, pas besoin d'avoir Clay et Roy à la traîne. »
« Ça me paraît une bonne chose. »«
Peut-être que ça vous dirait de venir et de me donner un coup de main. »
Kimba Rimmer ne se départit pas de son sourire glacial.
« Je ne crois pas. »
Jonas s'inclina et se remit à donner les cartes. Se rendre au barca serait un peu risqué, mais il n'envisageait pas de vrais problèmes pour autant, en particulier s'il y allait seul. Ce n'était que des gamins, après tout, et en vadrouille la plupart du temps.
« Quand puis-je espérer un compte-rendu ? Saï Jonas ?»«
Quand je serai prêt à le faire, ne me gonflez pas !»
Rimmer leva ses mains décharnées, paume en avant, vers Jonas.
« J'implore votre pardon, Sai, » dit-il.
Jonas opina légèrement radouci. Il retourna une autre carte. C'était le Pierre, chancelier des clés. Il ajouta la carte à la rangée du haut qu'il fixa, peignant sa longue crinière blanche avec ses doigts. Il releva les yeux vers Rimmer, qui lui rendit son regard en haussant le sourcil.
« Vous avez le sourire ?» dit Rimmer.
« Ouais !»
fit Jonas, se remettant à distribuer les cartes.
« Je nage en plein bonheur. Tous les chanceliers sont sortis. Je vais remporter et la partie, je crois bien.
5. Pour Réa, la période de la chasseresse avait été marquée par la frustration et l'insatisfaction. Ses plans étaient allés à volo, et grâce au bond si malencontreux de son chat, elle ne savait ni comment ni pourquoi. Le jeune goujat qui avait cueilli la fleur de Suzanne Delgado l'avait apparemment empêché de se cisailler la tignasse. Mais comment avait-il fait ? Et qui était-il en réalité ? Elle se le demandait de plus en plus, mais sa curiosité cédait le pas devant sa fureur. Réa du Chaos n'avait pas l'habitude de se voir contrecarrée. Elle regarda à travers la pièce le coin où se tapissait Moisy, qui ne la quittait pas des yeux. En temps ordinaire, il se serait vautré dans l'âtre, semblant apprécier les courants d'air frais qui tourbillonnaient dans le conduit de la cheminée. Mais depuis qu'elle lui avait roussi le poil, Moisy préférait le tas de bois. Étant donné l'humeur massacrante de Réa, c'était probablement une sage décision.
« Pas de la chance que je te laisse la vie, nécromant !»
grommela la vieille.
Se retournant vers la boule, elle se mit à effectuer des passes au-dessus, mais le cristal persista à n'offrir qu'un brillant tournoiement de lumière rose, sans montrer une seule image. Rhea finit par se lever, gagna la porte, l'ouvrit à la volée et leva les yeux vers le ciel nocturne. La lune à présent était légèrement décroissante, et la chasseresse se dessinait clairement sur sa face. Rhea adressa le torrent d'obscénité dont elle n'osait abreuver le cristal. Qui savait quelle entité pouvait secrètement l'habiter, n'attendant que de prendre ombrage d'un tel débordement de langage, à la femme de la lune. À deux reprises, elle frappa de son vieux poing osseux le linteau de la porte tout en jurant, convoquant tous les gros mots auxquels elle pouvait penser et jusqu'au nom d'oiseaux pipi-caca que les enfants se lancent à la tête dans les cours de récréation. Elle n'avait jamais été dans une colère pareille. Elle avait donné un ordre à cette fille, et pour une raison ou pour une autre, elle lui avait désobéi. Pour s'être dressée contre Rhea du Chaos, cette garce méritait la mort. « Mais pas tout de suite, » murmura la vieille femme.
« D'abord, il faut qu'elle soit roulée dans la fange. » Qu'on lui pisse dessus jusqu'à ce que cette fange devienne de la boue et que ses beaux cheveux blonds trempent dedans, qu'elle soit humiliée, blessée, qu'on lui crache au visage. »
Elle cogna à nouveau du poing le montant de la porte. Cette fois, du sang jaillit de ses phalanges. Il n'y avait pas que l'échec à faire obéir la jeune fille à son injonction hypnotique. Il y avait aussi autre chose qui s'y trouvait liée, tout en étant plus grave. Rhea était maintenant trop chamboulée pour se servir du cristal, sauf à de brefs moments imprévisibles. Les passes manuelles qu'elle faisait au-dessus de la boule et les incantations qu'elle lui marmonnait étaient en pure perte, elle le savait. Mots et gestes n'étaient que le moyen de concentrer sa volonté. C'était à cela que le cristal réagissait, à la volonté et à la concentration. Et voilà que maintenant, par le truchement d'une traînée et de son gamin d'amant, Rhea était trop furieuse pour rassembler sans à-coup la concentration nécessaire afin de dissiper le brouillard rose qui tourbillonnait dans le cristal. Elle était en fait trop en colère pour y voir.
« Comment le faire redevenir comme avant ?»
demanda Rhea à la femme qu'elle entrevoyait dans la lune.
« Dis-le-moi !»
Mais la chasseresse ne lui dit rien. Et Rhea finit par rentrer, sucetant ses phalanges sanguinolentes. Moisy, la voyant venir, se faufila dans l'étroit espace entre le tas de bois et la cheminée.